pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Eh bien, bonsoir aux auditrices, aux auditeurs de Principe Actif. Donc, c'est Amnesty International Évreux pour sa première émission du mois de mai. Donc, il y a pour l'animer ce soir Mina.
Bonsoir.
Françoise.
Bonsoir.
Et moi-même, Didier. Et pour ne rien vous cacher, on va vous le dire tout de suite, hein, comme ça vous pourrez mettre un nom sur les erreurs. S'il y a des erreurs techniques ce soir...
Mais non, Didier.
C'est moi, Didier, qui assume aussi la technique. Voilà, j'avais eu une petite formation théorique et il fallait bien qu'un jour, on s'y colle, comme on appelle ça. Donc c'est moi qui assure la technique ce soir. Donc à l'avance, soyez indulgents, mais comme dit Françoise,
tout va bien se passer.
Bon, au sommaire ce soir, beaucoup d'informations toujours par rapport à la promotion et la défense des droits humains, qui est la raison d'être d'Amnesty, et Dieu sait que l'actualité nous donne toujours beaucoup de sujets sur lesquels intervenir et beaucoup de préoccupations, mais aussi de réussites. On va vous en parler ce soir. Et pour commencer l'émission, je voulais revenir sur un sujet dont on vous a déjà parlé. Réécouter les podcasts de ces derniers mois, mais bien sûr c'est par rapport à l'utilisation du LBD-40 et des grenades explosives qui sont utilisées par les forces de police pour le maintien de l'ordre lors des manifestations, entre autres les manifestations des Gilets jaunes, mais pas que. Donc Amnesty a publié en tout début du mois, là, le 3 mai, un communiqué à l'intention du gouvernement qui rappelle qu'on demande la suspension de l'utilisation du LBD-40. Le LBD-40, ça s'appelle aussi le flashball, si j'ai bonne mémoire, et l'interdiction des grenades explosives. Donc je vais vous lire simplement le début du communiqué. Depuis le 17 novembre 2018, le bilan des manifestants gravement blessés s'alourdit semaine après semaine. Des blessures évitables, causées en grande partie par des armes dangereuses utilisées de manière disproportionnée. Nous appelons d'urgence les autorités à interdire l'usage des grenades et celles les grenades LGIF-4 et celles de désencerclement et à suspendre l'utilisation du LBD-40, donc du flashball, lors d'opérations de maintien de l'ordre. Nous les appelons aussi à revoir d'urgence leur stratégie de maintien de l'ordre pour sortir de la logique d'escalade. La France est le seul pays de l'Union européenne à utiliser des grenades lacrymogènes instantanées lors d'opérations de maintien de l'ordre. Or, celles-ci provoquent des blessures d'une telle gravité que la vie des personnes touchées peut en être dramatiquement bouleversée. Les grenades lacrymogènes instantanées LGIF-4 ont été largement employées, avec 1428 lancers recensés. Elles ont causé plusieurs mutilations graves, notamment des mains et des pieds. De plus, elles ne sont pas suffisamment précises et les forces de l'ordre risquent donc de blesser d'autres manifestants aux alentours, même lorsqu'elles visent des personnes qui menaceraient leur intégrité physique. En 2018, les autorités ont annoncé qu'elles ne passeraient pas commande de nouvelles grenades, mais qu'elles utiliseraient jusqu'à épuisement du stock actuel. Cette décision met en cause la responsabilité directe du gouvernement français, qui ne semble pas avoir pris la mesure de la dangerosité de ce type d'arme et de la gravité des blessures passées ou présentes qu'elles occasionnent. Bon, je suis dans le communiqué, vous pouvez le lire, c'est sur la page d'accueil d'Amnesty, là, si vous allez sur amnesty.fr. Bon, je vais simplement vous lire deux extraits à la fin de ce communiqué, qui continue en reprenant en détaillant et en développant ce que je viens de vous dire. Mais à la fin, il est dit « Les grenades explosives et le LBD-40 sont classifiés comme matériel de guerre, selon la législation française. Le déploiement de ce genre d'armes, ainsi que leur usage intensif ces derniers mois et années, pose la question des pratiques de maintien de l'ordre décidées par les autorités françaises. Ces mêmes autorités devraient avoir pour objectif de chercher la désescalade et la pacification dans le maintien de l'ordre. Ces armes peuvent non seulement blesser gravement, mais aussi participer à l'escalade de la violence et finalement dissuader de nombreuses personnes de venir manifester pacifiquement, remettant ainsi en cause le droit de réunion et d'expression pacifique. Donc voilà ce que dit Amnesty. Donc on voit bien qu'à travers l'utilisation de ces armes de maintien de l'ordre extrêmement répressives, entre guillemets, il y a en filigrane effectivement la remise en cause aussi et indirectement du droit de manifester et de réunion. C'est une des questions qui se posent. Donc Amnesty a renouvelé sous la forme d'un communiqué auprès des autorités françaises la demande de suspension de l'utilisation des flashballs et des grenades explosives et de désencerclement. Voilà, je pense qu'il était important de rappeler ça. C'est vrai qu'on en parle régulièrement dans tous les médias, mais bon, il y a toujours des manifestations et il y a toujours, effectivement, on apprend toujours que ce genre d'exaction continue à être commise. Je crois que c'était Françoise qui voulait vous dire quelque chose.
Moi, maintenant, je vais vous lire l'éditorial de la chronique du mois de mai d'Amnesty. Abolition, une victoire après l'autre. Notre dernier rapport annuel sur la peine de mort incite à l'espoir et à la combativité. En 2018, le nombre d'exécutions recensées, 690, a chuté de plus de 30% et il est le plus faible jamais enregistré ces 10 dernières années. La liste des États renonçant à la peine de mort s'est encore allongée avec le Burkina Faso, pour les crimes de droit commun, l'État de Washington aux États-Unis et la Gambie qui a opté pour un moratoire. Le 17 décembre dernier, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté, avec le soutien d'un nombre record d'États, 121 sur 193 et 32 abstentions, sa 7e résolution appelant à instaurer un moratoire sur les exécutions en vue d'abolir ce châtiment. Cette victoire, cependant, ne doit pas faire oublier que dans certains pays, le recours à la peine capitale s'est accentué, voire a été réintroduit. Ainsi, une hausse du nombre des exécutions a été enregistrée en 2018 au Bélarus, aux États-Unis, au Japon, à Singapour et au Soudan du Sud. D'autre part, la Thaïlande a procédé à une exécution pour la première fois depuis 2009. La peine de mort continue d'être pratiquée en lien avec la lutte contre le terrorisme en Égypte, par exemple, ou la guerre contre la drogue en Asie du Sud-Est. Récemment, elle a été réintroduite au Brunei à travers le code pénal islamique. Enfin, le triste record des exécutions continue de revenir à la Chine, l'Iran, l'Arabie Saoudite, le Vietnam et l'Irak. Ce combat pour l'abolition illustre parfaitement ce qui fait la force de notre mouvement. La patience, la persévérance pour obtenir des résultats concrets et notre capacité à actionner à l'échelle mondiale tous les leviers possibles. Le plaidoyer d'Amnesty auprès des autorités nationales et des institutions multilatérales est partout renforcé par la mobilisation de nos membres, pétitions, courriers, manifestations et sensibilisation des citoyens. L'objectif est double, sauver de l'exécution un condamné, mais aussi faire changer les lois avec l'adoption d'un moratoire ou mieux encore, l'abolition en pratique et dans les textes. Rien ne peut entamer notre conviction que ce châtiment, aussi inutile que cruel, inhumain et dégradant, est condamné à disparaître. À ce jour, 142 pays y ont déjà renoncé et la proportion d'un tiers, deux tiers entre pays abolitionnistes et non-abolitionnistes a été inversée depuis le début de notre combat pour l'abolition, il y a plus de 40 ans déjà. La tendance mondiale se confirme année après année et ce qui semblait être une utopie est aujourd'hui à notre portée.
Je me permets de rappeler, parce que moi j'aime bien rappeler ça, effectivement, par rapport à la peine de mort, qu'en 1978, il y avait 38 États dans le monde qui avaient aboli la peine de mort, et on en est maintenant à 140 et quelques.
Oui.
C'est
oui,
important, c'est très, très parlant. Mina.
Oui, je suis là. Je me tâtonne.
J'avais pas de doute que tu sois là, parce que tu es assise en face de moi.
Je vais vous faire voter. Entre faire les « c'est grâce à vous » qu'on essaye de faire avancer les droits humains, les défendre,
sortes de bonnes nouvelles.
Des bonnes nouvelles.
Ou sinon de vous faire un petit reportage d'une belle initiative dans un collège.
Bah écoute,
comme vous le sentez, vote.
C'est toi qui vois.
Qu'est-ce que vous voulez,
non,
Françoise?
On va pas voter.
Égal,
on va pas voter. Non mais comment sur ce qui te parle le plus.
Allez. Je vais faire la belle initiative.
Oui.
En France, le collège, au collège d'Olto, il se passe quelque chose.
Dans... Il est situé, ce collège ?
Attends, je ne me souviens plus. Tu le sais, toi ?
Non.
Mais ça va être dans ma lecture. En fait, l'idée, c'est de refaire le monde en mieux. En fait, il y a un concours tous les ans qui est présenté à Paris, celui de la déportation et de la résistance. Je ne sais pas si vous avez vu le film Les Héritiers ?
Non, je n'ai pas vu.
Donc voilà, donc, ces enfants se présentent à ce concours-là. Et le collège a décidé que les matières prendraient en compte à chaque fois les droits humains, que ça soit en SVT, que ça soit en littérature, voilà. Donc le mieux, c'est que je vous lise l'article.
Vas-y.
De la chronique du mois de mai. Pendant 5 mois.
On t'écoute.
Une classe d'un collège breton, voilà, en Bretagne, c'est pour ça, ça m'a perturbée. C'est mise à l'heure des droits humains. Dans la salle de SVT, Sciences de la vie et de la terre, derrière leur table de carrelage blanc, les élèves sont attentifs. Pas de cours de biologie à proprement parler aujourd'hui. La consigne est inédite. Quelles pourraient être les avancées de la science dans l'avenir et leurs conséquences sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, DUDH ? Il pourrait y avoir de la téléportation ou la possibilité de modifier génétiquement la taille des pieds ou de cloner des êtres vivants. Ils imaginent le monde de demain dans un vaisseau spatial ou sur une autre planète. Les collégiens rédigent sur tablette leurs idées qui apparaissent au fur et à mesure sur le vidéoprojecteur. S'il y a du clonage, le clone devrait avoir des droits, lui aussi, interpelle une élève. Il faudra ajouter un article à la DUDH. L'enseignant n'a pas de réponse toute faite, il chuchote. C'est la première fois que je fais un cours comme ça. Ce cours atypique fait partie d'un projet pilote initié par Amnesty International France au collège d'Olto à Passé, commune de 11 000 habitants à 10 km au nord-ouest de Rennes. Pendant 5 mois, les élèves de la 3e Paul-Éluard planchent sur le projet Utopia, concevoir un monde futur et en actualiser la Déclaration universelle des droits humains. 8 enseignants de différentes disciplines y travaillent de concert. Les élèves lisent des utopies et dystopies en cours de français, notamment 1984 de George Orwell en anglais, étudient le parcours de Magda Hollander-Lafont, ancienne déportée en histoire, la bioéthique en SVT, les libertés numériques en technologie, les conditions de vie possibles sur une autre planète ou une station spatiale en physique-chimie. Le cours de mathématiques, quant à lui, les aide à la réalisation finale d'une maquette du projet et la professeure documentaliste a effectué des recherches sur Internet. Fin mars, les élèves auront rédigé leur utopie et leur nouvelle mouture de Déclaration universelle des droits humains. Les 2 textes seront présentés au concours national de la résistance et de la déportation destiné aux scolaires qui a pour thème cette année « Répression et déportation en France et en Europe » de 1939 à 1944. Les déportations d'hier et d'aujourd'hui. Cathy Angoujard, professeure de français, est la chef d'orchestre d'Utopia. Tout commence par une intervention d'Amnesty, explique cette enseignante qui convie régulièrement l'association dans son établissement. Des membres du groupe Amnesty Rennes sont venus au collège d'Olto début novembre 2018 pour lancer le projet. Ce jour-là, au premier étage, la salle 113 est pleine à craquer. 4 membres de l'organisation sont présents, mais aussi une bonne partie des enseignants impliqués dans l'expérience. Et bien sûr, au centre, les 29 collégiens un peu impressionnés. Cyril Leroyer, militant d'Amnesty Rennes, se charge de présenter l'association, ses valeurs et ses actions à travers le monde. Puis il aborde le thème qui sera le fil rouge, les répressions et les déportations. Les élèves ont déjà en tête ces notions car la Seconde Guerre mondiale est inscrite au programme d'histoire. Mais cette fois, on leur parle du présent. Les Rohingyas massacrés en Birmanie, réfugiés au Bangladesh, les expulsions au Brésil pour construire un stade de foot. Un étudiant originaire de Guinée installé à Rennes s'était impliqué dans les actions d'Amnesty, raconte Cyril Leroyer. Malheureusement, il a été expulsé et renvoyé dans son pays. Si le discours sur les droits humains se rapproche, il reste encore abstrait pour ces collégiens confortablement installés dans leur salle de classe. Cathy Angoujard, la professeure de français, à roder sa méthode de travail. Il faudra revenir en permanence sur la DUDH durant le projet. Ça leur permettra de comprendre qu'elle est imbriquée avec notre histoire, notre présent et notre futur. Amnesty lui a fourni plusieurs jeux de cartes. Sur chacune d'elles, un droit de la DUDH est mentionné. Ce lot de vignettes sera l'outil essentiel des cours à venir. C'est dans cette salle 113 que se déroulera l'essentiel du projet Utopia autour des cours des Français dans lequel s'inscrit celui d'histoire. Nous allons nous pencher sur le parcours de Magda Hollander-Lafont, une femme déportée durant la Seconde Guerre mondiale que vous allez rencontrer fin janvier, annonce Karine Foucault, la professeure d'histoire. Les deux enseignantes réunissent les élèves en trois groupes autour de grandes tables sur lesquelles est déroulée une frise en papier. Elles retracent la chronologie du calvaire de Magda du 19 mars 1944, lorsque la Hongrie devient un état satellite de l'Allemagne à sa libération en avril 1945. Karine Foucault propose « Vous allez associer chaque événement de l'histoire de Magda à un droit de la DUDH qui n'a pas été respecté. » Sur dénonciation de ses voisins, cette jeune juive hongroise fut interpellée le 27 avril 1944 avec sa sœur puis envoyée vers le camp de Birkenau en Pologne. « Avec quels moyens de locomotion ?» interroge la prof d'histoire. « Des trains ?» Soyons précis, s'il vous plaît. Des trains, des TGV tout confort? Non, des wagons à bestiaux. Oui, dans un wagon à bestiaux, bondés, sans arrêt, dans l'obscurité, sans nourriture. Est-ce que ce sont des conditions qui respectent les droits de l'homme? Non, répond la classe unanime. Quel droit a été enfreint? Des mains se lèvent avec les vignettes jaunes estampillées Amnesty. La dignité, lance un élève. Très bien, encourage Karine Foucault. Le régime cherchait à animaliser les déportés en leur faisant perdre leur dignité. L'enseignante de français, Cathy Angoujard, profite de l'occasion. Nous avons étudié le livre de Primo Levi, si c'est un homme. Comment s'ouvre le récit? Il parle des aboiements des gardiens des camps. À travers son écriture, Primo Levi montre que ce sont les nazis qui sont des animaux. L'auteur a utilisé ce vocabulaire pour inverser la situation. Ce ne sont plus les juifs qui sont des animaux et les nazis des humains. C'est le contraire. Ce croisement des disciplines est au cœur de la méthode employée par les enseignants. Il permet de décloisonner les matières. Et puis on aime beaucoup animer un cours ensemble, lance dans un sourire Karine Foucault. Mais ça demande du temps. Dans les autres cours, la co-animation n'est pas toujours possible, faute de temps et d'agenda compatibles. Ce qui n'empêche pas de les orienter sur le fil rouge de l'année. Le cours de SVT s'est penché sur la bioéthique avec l'annonce récente de la naissance de deux bébés clonés en Chine. Le changement climatique détruit des habitations, limite les ressources, pousse des pollutions à migrer. Quelles sont les...
Hein? Des populations à migrer.
Oh, j'ai dit quoi, des pollutions? Ah, je refais. Attends, je me remets dans mon ambiance. Le changement climatique détruit des habitations, limite les ressources, pousse des populations à migrer. Quels sont les droits de ces populations et les devoirs qui incombent aux autres? Le cours de technologie s'intéresse aux potentialités d'Internet, réseaux sociaux, cybersurveillance, vie privée. L'imagination part à tout va, largement alimentée par le ciné-club du lundi organisé au collège. À l'affiche des films de science-fiction dystopiques, robots intelligents et clones rebelles. Relèvent-ils du droit de propriété bénéficiant à leurs créateurs? Doivent-ils être reconnus comme des êtres vivants ayant les mêmes droits que les humains? Les élèves ont tranché le « oui » l'emporte. Même si ces adolescents sont sensibles à la science-fiction, la rencontre dans le monde réel avec Magda Hollander-Lafont les a marqués au fer rouge. C'est dans la MJC voisine que l'échange a eu lieu fin janvier. Elle avait du mal à parler de ce qu'elle avait vécu, raconte Noah. Confronter la théorie des livres d'histoire à la réalité d'un témoin a chamboulé les élèves. Quand j'y repense, réfléchit Noah, on savait que c'était vrai, mais là, on prend vraiment conscience de ce qu'il s'est passé. Optimiste, il se montre confiant. Ce qu'a vécu Magda ne peut pas se reproduire parce qu'on sait ce qu'il s'est passé à cette époque. On a appris les erreurs du passé. Et pour le futur ? Aujourd'hui, notre problème, c'est l'intelligence artificielle. Un jour, il y aura un problème, un scandale, et là, on mettra en place les règles pour que ça ne se reproduise pas. Sa camarade Enora soupire avec philosophie. Il faut imaginer le pire pour pouvoir faire une bonne déclaration universelle des droits humains. Merci de votre écoute. J'ai trouvé ce reportage magnifique. C'est comme vrai. Quoi, on peut encore faire des choses.
Et ça démontre bien l'importance de l'éducation dans les droits humains et d'intervenir dans les établissements scolaires, effectivement. Ouais. On l'a fait, nous, il y a cette année encore, pour la deuxième fois, au Collège de l'Immaculée, à l'invitation d'enseignantes, sur la thématique. Nous, c'était sur la thématique des réfugiés et des migrants. Mais c'est important d'apporter le discours des droits humains à des gens qui, souvent, entendent des choses qui ne le respectent pas du tout. Voilà, on va s'écouter un petit peu de musique.
De musique, maintenant ?
Oui.
À la brocante, y'a plein de bidules qui me tentent. Trois sous-marins nucléaires et quelques missiles solaires. Une ruine de cyclotron, une antique bombe à neutrons. Tout ça n'est vraiment pas cher, c'est bien cradé plein de poussière. J'collectionne les résidus, tous les temps perdus. Les gaspillés, les gâchis dans le pauvre monde apathie. Patati patata, dire qu'on a gobé tout ça. À la foire aux enfoirés, fin chef d'état empaillé. Font la grimace aux gamins, ça fait aboyer mon chien. Des sabres et des goupillons, une douzaine d'échantillons. D'OGM comme je les aime, bouffé par les charançons. J'collectionne les résidus, tous les temps perdus. Les gaspillés, les gâchis dans le pauvre monde apathie. Patati patata, dire qu'on a gobé tout ça. Oh, gobé tout ça. En 2703, j'ai deux têtes et quatre bras. Mon voisin a une queue de lapin, mais ici personne se plaint. En matant tous ces machins, de la foire à la brocante. Y'a tout le passé qui décante, écoute, bah on s'en souvient. J'collectionne les résidus, tous les temps perdus. Les gaspillés, les gâchis dans le pauvre monde apathie. Patati patata, dire qu'on a gobé tout ça. Oh, gobé tout ça. Dire qu'on a gobé tout ça. Gobé tout ça.
C'était Paul Person, c'est un petit clin d'œil à notre ami Renan, qui m'en a parlé hier soir au téléphone de Paul Person. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas écouté Paul Person.
C'est vrai.
Chers auditeurs du troisième âge, c'est la dernière fois que vous entendez un accordéon pousser la chansonnette sur cette fréquence.
Principe actif, le mix des cultures. Dans le sud de l'Eure, 95.9, à Évreux, 102.4.
Papa, je crois que vous n'êtes pas encore prêt pour ce genre de choses. Par contre, vos gosses vont adorer ça.
De retour donc sur l'antenne de Principe Actif, c'est Amnesty International Évreux. Et je vais vous parler de, pour commencer cette deuxième période de l'émission, je vais vous parler d'événements toujours qui se passent en France et dont vous avez aussi entendu parler. Cette fameuse histoire de vente d'armes françaises au Yémen et qui a été contestée par plusieurs ONG, dont Amnesty International, disant que ces armes, en fait, qui sont vendues à l'Arabie Saoudite, servaient donc à massacrer la population civile yéménite. Chose que dans un premier temps, les autorités françaises ont nié. Et à la suite de ça, il y a des différents journalistes et différents services de presse qui ont apporté la preuve que oui, ces armes vendues par la France à l'Arabie Saoudite servaient bien dans le conflit au Yémen. Eh bien, on a appris le 14 mai, c'est-à-dire hier, c'est très récent, que maintenant, ces journalistes qui ont dénoncé ces ventes d'armes sont inquiétés par les autorités françaises. Alors Amnesty a publié un communiqué qui n'est pas long, donc je vais vous le lire en entier. Avec 16 autres ONG, nous dénonçons aujourd'hui les menaces qui pèsent sur la liberté de la presse après la convocation par les services de renseignement français de 3 journalistes ayant enquêté sur la présence d'armes françaises dans le conflit au Yémen. Geoffroy Livolzi, Mathias Destal, du média d'investigation Disclose, ainsi que Benoît Colomba de la cellule investigation de Radio France, sont entendus mardi et mercredi, donc aujourd'hui et demain, par la Direction générale de la Sécurité intérieure, dans le cadre d'une enquête préliminaire pour compromission du secret de la défense nationale, ouverte par le parquet de Paris après le dépôt d'une plainte par le ministère des Armées. Le 15 avril dernier, Disclose et ses partenaires ont publié des notes classées « confidentielle défense » de la Direction du renseignement militaire, confirmant ce que nous mettons en lumière depuis 3 mois. Les équipements militaires français achetés par l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis sont engagés dans la guerre au Yémen avec un risque majeur d'utilisation dans les attaques illégales contre les populations civiles. Les documents révélés par Disclose montrent également que les autorités françaises n'ont aucune certitude sur l'utilisation qui est faite des armes françaises, contrairement aux assurances encore affichées ces derniers jours par le président de la République, la ministre des Armées et le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, pourtant destinataires des notes de la DRM. La DRM, donc, c'est la Direction du renseignement militaire. Depuis le 15 avril, Disclose a continué d'enquêter sur les armes françaises au Yémen en révélant l'arrivée au Havre, ça fait aussi la une de l'actualité ces derniers jours, l'arrivée au Havre d'un cargo saoudien venu charger du matériel militaire français. L'information que la ministre des Armées Florence Parly a été contrainte de confirmer a suscité une forte mobilisation d'ONG et de parlementaires et le navire a finalement quitté la France vendredi dernier sans la cargaison prévue. Nous estimons que les informations révélées par Disclose et ses partenaires sont d'un intérêt public essentiel. Elles confirment le risque majeur que des armes de fabrication française sont utilisées dans les crimes de guerre au Yémen, en contradiction avec les obligations internationales de la France au regard du traité sur le commerce des armes, dont la France est par ailleurs l'un des principaux défenseurs, et de la position commune de l'Union européenne. Dans ces conditions, la menace de poursuite contre les 3 journalistes réaffirmée la semaine dernière par Florence Parly constitue une atteinte inacceptable à la liberté de la presse et à la protection des sources journalistiques. Benoît Colomba, Mathias Destal et Geoffrey Livolzi sont inquiétés pour avoir exercé leur métier, celui d'informer le public de manière responsable, sans révéler d'opérations militaires françaises en cours, ni mettre aucun personnel français en danger. Nous exprimons notre totale solidarité avec les 3 journalistes convoqués cette semaine. Elle demande au ministre de l'Intérieur, à la ministre des Armées et au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de cesser les intimidations contre la presse et de respecter le secret des sources. Alors s'ensuit toute une liste d'ONG qui ont signé, donc à part Amnesty, on y retrouve la CAT, Action contre la faim, je ne vais pas tous vous les lire, les Médecins du Monde, Human Rights Watch, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, Handicap international, etc. Donc voilà, je vous parlais tout à l'heure de, des ventes, de l'utilisation des grenades de, et du LBD 40, c'est ça, oui. Je suis en trou de mémoire. Donc. LBD 40 par les forces de l'ordre qui pouvaient constituer des menaces au droit de manifester. Et maintenant, on constate qu'il y a des menaces contre la liberté de la presse. Et tout ça, je vous le rappelle, que ça se passe en France.
Eh oui.
Je crois que c'était Françoise qui voulait continuer.
Voilà, qui va vous lire un article, enfin, concernant, vous savez bien que les élections européennes sont tout près. Donc, je vais vous lire un article intitulé « Dans les pas de Victor Hugo ». Il y a plus d'un siècle et demi, l'époque était déjà marquée par le choc des nationalismes. Victor Hugo avait alors trouvé les mots pour rêver les contours de cette Union européenne avant même qu'elle n'existe. « Nous aurons la patrie sans la frontière, le budget sans le parasitisme, le commerce sans la douane, la circulation sans la barrière, l'éducation sans l'abrutissement, la jeunesse sans la caserne, le courage sans le combat, la justice sans l'échafaud, la parole sans le bâillon, la conscience sans le joug, la vérité sans le dogme, Dieu sans le prêtre, le ciel sans l'enfer, l'amour sans la haine », déclarait-il lors du Congrès de la paix le 21 août 1849. Marchant dans ses pas ce mois-ci, notre journal rêve l'Union européenne telle que nous la voulons, sans pour autant ménager celle que nous avons. Plus de démocratie, de solidarité, le renforcement par les urnes d'un sentiment de citoyenneté. Une Europe qui défend bec et ongles les droits humains lorsqu'ils sont menacés, comme en Pologne, où des juges se tournent vers la justice européenne alors que leur indépendance est attaquée. Une citoyenneté européenne que les élèves du lycée Passé, près de Rennes, s'approprient, comme vous l'a lu Mina tout à l'heure. En cours, ils apprennent que ce sont les droits humains pour avoir un jour envie de les défendre et d'en conquérir de nouveau. D'autant que parfois, un droit est hors la loi. Ainsi, de l'autre côté de l'Atlantique, en Argentine, dans le secret d'un appartement, un réseau de femmes se réunit clandestinement pour en aider d'autres souhaitant avorter. Les droits de l'homme ne sont pas toujours ceux des femmes. Le chemin est encore long. Et Didier, tout à l'heure, vous lira aussi un article à ce sujet dans la chronique. Je passe la parole à Mina.
Merci Françoise. Et maintenant, justement, à quoi ça sert les actions urgentes? C'est avoir des bonnes nouvelles.
Les actions urgentes. D'Amnesty et entre autres les actions urgentes, oui, bien sûr.
Oui. Donc, c'est grâce à vous dans l'actu de la chronique de mai. Au Burkina Faso, la contraception gratuite. Les contraceptifs et les consultations de planning familial seront gratuits à compter du 1er juin 2019. Cette mesure est directement liée à la pétition « Mon corps, mes droits » lancée par Amnesty en 2015. Les obstacles financiers levés, les femmes auront davantage la maîtrise sur leur corps et contrôleront mieux les naissances. En Irlande, un pas de plus pour les femmes. L'Irlande a ratifié le 8 mars dernier la Convention d'Istanbul qui prévient et lutte contre les violences à l'égard des femmes et les violences domestiques. Une nouvelle avancée après la suppression de l'interdiction de l'avortement prévue par la Constitution irlandaise en 2018. Bosnie, perpétuité pour Karadžić. L'ex-président des Serbes de Bosnie, Radovan Karadžić, 73 ans, a été condamné en appel à la prison à perpétuité par la Cour pénale internationale. Il avait été condamné à 40 ans de prison pour génocide et crimes de guerre. La CPI a jugé l'étendue et la cruauté systématique de ces crimes pendant la guerre de Bosnie, notamment sa responsabilité dans le siège de Sarajevo, le massacre de Srebrenica en 1995 et dans le déplacement de populations sur des bases ethniques dans plusieurs autres villes du pays. Arabie Saoudite, libération provisoire. Après 8 mois de mobilisation, Ayman al-Nahjan et Aziza al-Youssef ont été provisoirement libérés le 28 mars. Ces deux militantes pour les droits de femmes peuvent enfin retrouver leurs proches. Cependant, les charges retenues contre elles n'ont pas été abandonnées et aucune enquête indépendante et impartiale sur les tortures qu'elles ont subies n'est ouverte. Alors continuez, les bonnes nouvelles arrivent, continuez à défendre les droits humains et à répondre aux actions urgentes sur amnesty.fr et aussi sur Amnesty Belgique, amnesty.be.
Juste un petit commentaire sur ce que tu viens de dire, Mina. Parmi ces bonnes nouvelles, tu avais le fait qu'on se réjouissait du fait que Karadzic était condamné à la perpétuité. Bien sûr, Amnesty demande la libération des gens qui sont injustement emprisonnés, mais demande aussi l'arrestation et la condamnation des criminels. Donc c'est son cas, effectivement, et c'est un criminel de guerre pendant la guerre civile en Yougoslavie, dans les années 90. Donc pour nous, c'est une bonne nouvelle qu'il soit condamné à la prison à perpétuité.
Alors moi, je vais vous parler d'un événement qui a lieu cette année quand même. C'est l'année du 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. Le 20 novembre prochain, nous commémorerons le 30e anniversaire de la CIDE, votée le 20 novembre 1989 par l'Assemblée générale des Nations unies, signée et ratifiée par tous les États dans le monde, sauf les USA. La Convention devrait servir de guide autant pour les législateurs que pour chacun d'entre nous. Texte fondamental des droits humains, elle reste cependant bien souvent ignorée, et dans de nombreux pays, son application est partielle ou défaillante. Les enfants sont loin de jouir de tous les droits énoncés. Ainsi, dans son rapport 2018, la secrétaire spéciale de l'ONU sur le sort des enfants dans les conflits armés souligne que l'enrôlement et l'utilisation d'enfants soldats n'a pas cessé. Syrie, Soudan, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Somalie ont vu des centaines de nouveaux enfants recrutés et utilisés activement dans les conflits armés. La liste de la honte, qui regroupe plus de 50 organisations autrices de graves crimes contre des enfants, s'est vue enrichir de nouveaux noms, même si deux d'entre eux ont été rayés. Le nombre d'enfants survivants dans les zones de conflit a été réévalué par l'Institut de recherche sur la paix d'Oslo. D'un enfant sur 10, c'est presque un enfant sur 5 qui vit dans une zone en proie à des conflits. Il y a cependant de bonnes nouvelles. Des accords passés entre l'ONU et des groupes armés ont permis le désarmement et la démobilisation de plusieurs milliers d'enfants. Dans un communiqué paru le 6 mars 2018, l'UNICEF fait part de la forte diminution des mariages d'enfants. La proportion de jeunes filles mariées avant 18 ans aurait diminué de 15% dans les 10 dernières années. Le progrès venant surtout de l'Inde, où le risque que court une fille d'être mariée avant ses 18 ans serait passé de 50% à 30%. Évolution positive due principalement à l'augmentation du taux d'éducation et à des campagnes d'information du public. Il reste cependant que chaque année, 12 millions de filles dans le monde sont mariées pendant leur enfance. Selon le rapport de l'Organisation internationale du travail, le nombre d'enfants dont l'enfance est sacrifiée parce qu'ils sont obligés de travailler poursuit sa baisse. De 168 millions, 10% des enfants dans le monde en 2012, il est passé à 152 millions, 9,6% en 2016, et la diminution vaut aussi pour la pire forme du travail des enfants. Là aussi, c'est grâce au progrès de l'éducation, mais c'est encore 152 millions de trop. Donc, la Convention fêtera bientôt ses 30 ans. Elle est devenue une norme des droits humains. Elle a permis des progrès. Elle devrait être la référence. C'est la responsabilité de chacun de la faire connaître, de l'utiliser pour faire en sorte que le droit s'applique à tous les enfants. Donc les militants d'Amnesty, eh bien, en 2009, vont mener des actions importantes pour faire connaître la Convention et surtout la faire appliquer.
Oui. Tu disais tout à l'heure qu'il y avait donc un enfant sur 5 maintenant, contre un enfant sur 10, si j'ai bonne mémoire, qui était dans des zones de conflit, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Donc voilà. Non, ça me faisait penser quand on dit toujours pourquoi les gens quittent leur pays et cherchent des pays d'accueil, enfin l'éternel thème des réfugiés et des migrants, ben voilà, une des raisons, effectivement, bien sûr que quand on est dans une zone de conflit, ben on cherche à sauver sa vie, hein. c'est pas très compliqué à comprendre.
Puis là, l'enrôlement des enfants,
bref,
c'est pas bon.
Je reprends le conducteur parce que je ne sais plus où on en est, je ne vais pas vous le cacher.
Une pause musicale.
Oui, c'est ça, on avait dit une pause musicale. We'll be right back.
bébé c'est chanter couille. Mais moi pour tes balles, moi faire la confiance. Faut expliquer moi, ça va faire bon moi. Moi la
retour sur l'antenne de Principe Actif. Donc c'était le groupe Delgrèze, pour ceux qui étaient au concert en soutien à Amnesty au mois de février au Cube. Ben, c'était un petit coup de chapeau qu'on leur rendait une nouvelle fois.
Vous méritez aussi de vous divertir. Cette émission, sa modeste ambition est de vous faire oublier vos soucis en vous faisant découvrir des visages nouveaux qui seront associés à des locomotives.
Principe Actif.
Et j'aimerais pour commencer que vos applaudissements aillent à ceux qui ont beaucoup travaillé avec nous.
À Évreux, 102.4. Dans le sud de l'Eure, 95.9. Principe Actif, le mix des cultures.
Donc maintenant, je crois que c'était à nouveau... Je sais plus. C'était à moi. Ah bah dis donc, j'allais me couper la parole à moi-même. C'est quand même... Mais comme je suis aussi préposé aux manettes et au micro, donc voilà, j'allais me couper la parole, mais non. Oui, je voulais vous parler d'une autre information, alors qui ne se passe pas en France, mais dont les conséquences sont dramatiques. Il y a Mina qui vient de me souffler un petit oubli technique que je venais de faire. Merci Mina. Avec l'élection de Bolsonaro au Brésil, ben, ce qu'on craignait du président Bolsonaro au Brésil, président d'extrême droite, il faut le rappeler, raciste, homophobe, enfin, etc., etc. Eh bien, les conséquences commencent à se faire sentir et les remises en cause des droits des populations indigènes aussi. Donc, dans la région de l'Amazonie, le risque de violents affrontements est imminent. Les confiscations de terres et l'exploitation forestière illégale ne cessent de s'intensifier et des intrus armés mettent en péril les peuples indigènes. Dans trois territoires différents dans le nord du Brésil, des intrus ont commencé ou poursuivi des opérations illégales visant à confisquer des terres et à abattre des arbres. Les leaders indigènes dénoncent avoir été menacés de mort parce qu'ils défendent leurs terres ancestrales. Avec l'arrivée de la saison sèche, ils craignent de nouvelles intrusions car l'accès à la forêt sera facilité, ainsi que la déforestation et les brûlis. D'après les représentants d'ONG et les autorités interrogées, les intrus sont souvent des habitants de la zone que des fermiers et des politiciens locaux incitent à occuper des parcelles de terre et à vendre le bois. Dans certains territoires, les peuples indigènes font des patrouilles pour surveiller et protéger leurs terres contre ces intrusions. Comme les intrus sont souvent armés, le risque d'affrontement violent est très élevé. Dans ces trois sites, les leaders indigènes ont dénoncé à maintes reprises des confiscations de terres et l'exploitation forestière illégale auprès des autorités du gouvernement. Cependant, celle-ci n'apporte que des réponses limitées à ces activités illégales et ces activités illégales se poursuivre. Alors, je ne vais pas tout vous lire le communiqué parce qu'il y en a deux pages, mais il est précisé après que les différentes associations de défense des droits des populations indigènes brésiliennes ont interpellé les différents ministères qui traitent de ces questions depuis le début de l'année et que pour l'instant, les réponses soient très partielles quand elles existent, parce que certains ministères ne répondent pas du tout.
Voilà. Et moi, j'ai entendu à la télévision hier que un des patriarches là, des populations indigènes, M. Raoni, là, oui, serait reçu demain par le président de la République française, et qu'il irait dans d'autres pays d'Europe.
Il faut espérer que M. Macron relaie sa colère auprès des autorités brésiliennes par rapport à ce qui se passe là-bas. Et juste une petite dernière information dont vous avez peut-être déjà entendu parler, parce qu'il est quand même dit que, avec le nouveau gouvernement brésilien, l'exploitation des forêts vierges d'Amazonie a repris de plus belle. Grande catastrophe écologique dont on paiera tous les conséquences, mais que cette déforestation a subi une hausse de 82% depuis le début de l'année par rapport à ce qu'elle était en 2018. 82%. C'est un crime de faire ce genre de choses. Voilà. Mina, je crois, c'était à toi.
Oui. Je vais vous parler d'une pétition qui est en ligne sur Amnesty Belgique, amnesty.be. Encore une militante des droits humains persécutée. Estvia Bozlena est une militante polonaise, psychologue, psychothérapeute de profession, défenseur de l'égalité et antifasciste. Elle n'a eu de cesse ces dernières années de protester contre les réformes liberticides successives en Pologne, notamment contre l'interdiction de l'avortement. Après avoir achevé une tournée de sensibilisation en Belgique et aux Pays-Bas avec Amnesty International début mai 2019, Elspieta a été arrêtée à son retour en Pologne. Les forces de l'ordre ont perquisitionné son domicile et affirment y avoir trouvé des affiches représentant la Vierge avec une auréole aux couleurs du drapeau lesbienne, gay, bisexuel, transsexuel, queer, intersexe autour de la tête. Pour cette raison, elle a été inculpée d'offense à des croyances religieuses et encourt jusqu'à 2 ans d'emprisonnement. Le fait de détenir, créer ou distribuer des affiches comme celle-ci ne devrait pas constituer une infraction. Chaque personne a le droit de s'exprimer. Nous sommes toutes et tous protégés au titre du droit à la liberté d'expression. Le cas d'Elsbetia n'est qu'un exemple parmi tous les autres du harcèlement des défenseurs des droits humains par les autorités polonaises, qui n'a de cesse d'augmenter ces dernières années. En effet, avant cet incident, le 6 mai dernier, Elsbieta ainsi que 13 autres militantes avaient été agressées par des manifestants alors qu'elles protestaient contre les slogans fascistes d'une marche nationaliste. Le résultat ? Au lieu d'être protégées, une partie d'entre elles a été condamnée pour obstruction à un rassemblement licite, alors qu'elles ne faisaient qu'exprimer leur opinion librement. Donc, allez signer la pétition pour défendre
Elsbieta. Oui, signer pour elle.
Ouais, pour défendre Elsbieta.
C'est sur le site d'Amnesty Belgique.
Amnesty Belgique, oui. Amnesty.be.
C'est ça. Moi, je l'ai reçu le mail aujourd'hui et j'ai signé aussitôt. Voilà. Mais il y a déjà plusieurs milliers de signatures, mais il faut être très nombreux parce que, encore une fois, ça ne se passe pas en France, mais ça se passe en Europe, dans l'Union européenne, juste à côté de chez nous.
Moi, je vais vous faire part d'une publication qui vient de sortir, là. Enfance brisée, les enfants palestiniens, cible privilégiée de la répression israélienne. Dans le cadre de la campagne Palestine, la casse-prison, la plateforme des ONG pour la Palestine publie la brochure Enfance brisée, les enfants palestiniens, cible privilégiée de la répression israélienne. C'est une actualisation du rapport Enfance brisée qui avait été publié en 2016, et ce document vient de sortir là, en janvier 2019. La brochure reprend des données actualisées. Elle comprend de nombreux éléments visuels, infographies, tableaux, illustrations, et vise à sensibiliser le grand public aux violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire subies par les enfants palestiniens tout au long de leur parcours de détention aux mains des autorités israéliennes. De la violence des arrestations aux difficultés de la réinsertion, en passant par l'iniquité des procès. La brochure expose les rouages d'une machine destructrice de la jeunesse palestinienne. Elle peut également constituer un outil de plaidoyer envers des interlocuteurs politiques, que ce soit les députés, les maires. Voilà, donc c'est aussi ça une action à soutenir. À toi, Olivier.
Oui. Moi, je voulais vous dire que parce qu'il y a des élections là très bientôt, c'est en fin de semaine prochaine, c'est
le
ça
26
oui.
mai.
Le 26 mai. Mai. Je voulais vous dire quelques mots des élections européennes. Il y a un très bon dossier qui est paru dans la chronique. On vous rappelle que la chronique, on s'en sert régulièrement dans les émissions. C'est le mensuel d'Amnesty France. Et c'est une très bonne source d'information sur les droits humains. Et vous pouvez vous abonner, encore une fois, je le répète à chaque fois, mais c'est pas difficile. Hein. Vous allez sur amnesty.fr et vous avez une page abonnement en cherchant un peu, mais c'est très vite fait. Vous pouvez vous abonner, même si vous n'êtes pas adhérent d'Amnesty, il n'y a aucun problème. Et donc, il y a ce dossier sur les élections européennes. Je vais vous lire l'introduction et puis vous dire quelques mots de l'article, hein, parce qu'il fait, quatre grandes pages pour sa première partie, donc ce serait beaucoup trop long. Donc voilà ce qu'il nous dit. Des millions d'électeurs dans les 28 États membres voteront pour élire les 705 députés du Parlement européen. Un rendez-vous décisif alors que les nuages s'accumulent. Montée inquiétante des populismes, crise épuisante du Brexit, accusations de dérives technocratiques. L'espoir de paix, de prospérité et de solidarité incarné par la construction européenne au lendemain de la Seconde Guerre mondiale a du plomb dans l'aile. Et je fais une petite parenthèse là, par rapport à ce que vous avez lu tout à l'heure, le texte de, lu par Françoise, le texte de Victor Hugo. Lui aussi, il parlait d'espoir de paix, de prospérité et de solidarité. La rude potion imposée à l'Union européenne et à la Grèce, en pleine déroute financière et l'incapacité de trouver une solution commune à la crise de l'accueil des migrants, ont nourri l'euroscepticisme. Pourtant, l'Union dispose de précieux outils lorsque ses valeurs fondamentales sont menacées au sein d'un État membre. Elle en témoigne l'enquête de notre correspondant en Pologne. Alors ça fait partie du dossier, bon ça je ne vais pas vous le lire. Elle montre comment les institutions, mais ça fait suite à ce que disait aussi Mina à l'instant. Elle montre comment les institutions européennes ont permis de renforcer les résistances de juges polonais harcelés par le pouvoir exécutif. Et si, avant d'inventer une autre Europe, redessiner une nouvelle utopie. Il fallait surtout inventer la citoyenneté européenne, défendre son fonctionnement démocratique, dépoussiérer les principes qui l'ont fondée. Alors bon, on suit une présentation de l'article, donc je voulais simplement vous dire que cet article recoupe plusieurs choses. Il parle effectivement des assauts qui sont faits par un certain nombre de, au niveau de l'Europe, un certain nombre d'États ou de partis politiques qui veulent oublier l'histoire. Mina vous parlait aussi tout à l'heure de la mémoire dans cette classe en Bretagne qui parlait de la Seconde Guerre mondiale. Bon, bien sûr qu'on sait très bien qu'il y a des États effectivement qui remettent ces Européens, qui remettent cette histoire-là ou au moins en partie en cause. Effectivement, c'est plus facile d'interdire aux gens de penser à ce qui s'est passé plutôt que d'entretenir la mémoire comme prémonition par rapport à au fait qu'on ne veut pas que ça se représente. Je ne sais pas si ma phrase était très claire, mais bon, la nécessité de devoir de mémoire est importante pour préserver la démocratie. Voilà. Il s'ensuit aussi, il y a des remarques sur la crise grecque, qui est responsable d'une grande part pour l'euroscepticisme qu'on voit maintenant. Effectivement, la Grèce a été au niveau financier absolument étranglée par l'Europe et principalement par l'Allemagne. C'est le gouvernement allemand dont il est question, enfin, c'est pas le peuple allemand. Le peuple allemand n'est pas concerné directement, mais par le gouvernement allemand, et que cette crise économique et financière a largement sapé cette notion de solidarité entre les différents États membres de l'Union européenne. On parle aussi effectivement de la crise en Espagne dans cet article, montrant effectivement, ça vous en avez parlé il y a très longtemps dans une émission, plus d'un an, montrant effectivement que la crise en Espagne a aussi joué sur les droits économiques et sociaux et qu'un certain nombre d'Espagnols ont maintenant des difficultés à se soigner correctement, ce qui est bien sûr une remise en cause des droits humains. On parle bien évidemment de l'accueil des migrants et du manque de courage de l'Union européenne pour résoudre cette crise, dont Amnesty continue à dire, et le répétera toujours, que ce n'est pas une crise des réfugiés, mais une crise de l'accueil des réfugiés, ce qui n'a pas du tout le même sens. Et on rappelle quand même dans cet article qu'il y a à l'heure actuelle au moins 20 000 personnes depuis le début des mouvements migratoires vers l'Europe, 20 000 personnes qui sont mortes en Méditerranée. 20 000. Quand on parle de guerre, bon, c'est pas une guerre, mais quand on parle de guerre, effectivement, on n'en est quand même pas très loin. Donc voilà. Mais malgré tout ça, ce qui est dit effectivement dans le dossier, c'est que malgré tous ces handicaps que connaît l'Europe à l'heure actuelle et tous ces motifs pour ne plus trop y croire, ben, les opinions des différents pays continuent à être majoritairement pour l'Europe. Et que dans différents pays, on trouve des sondages qui sont effectivement pour l'Europe, 59% dans un pays, 64% pour l'Europe dans un autre pays, etc., etc. Et l'article se conclut, et je conclurai en même temps, effectivement, qu'il faut continuer à lutter pour la démocratie et la solidarité en Europe. Et donc, allez voter.
Didier, il ne faudrait peut-être pas oublier de signaler que dans les rues d'Evreux la semaine prochaine, il y aura des recruteurs dans la rue pour
Amnesty.
Ce n'est
pas la semaine prochaine, c'est au mois de juin.
C'est en juin ?
C'est en juin.
Ah, je croyais que c'était en mai.
Non, c'est en juin, ça a été reporté. On a reçu un autre mail qui précisait qu'en fait, c'était plus en mai, mais en juin, que les recruteurs de rue d'Amnesty seront en juin. D'accord. Donc on en reparlera dans une prochaine émission, mais la date a été décalée.
Ah, d'accord. Bien, info locale.
Voilà, on va arriver aux infos locales. Françoise, qu'est-ce qu'on a comme info locale ?
Eh bien, comme info locale, il y aura le 8 et 9 juin le festival Ça sonne à la porte. Donc, nous aurons un stand d'Amnesty, là, vous pourrez faire signer.
Et c'est ta grosse œuvre.
Et c'est ta grosse œuvre, bien sûr. Et le 30 juin, sur le parking de l'espace Saint-Léger, nous aurons notre foire aux livres habituelle maintenant.
Oui, enfin habituelle, on le rappelle quand même, oui, effectivement, c'est sur l'espace Saint-Léger, et qu'on invite chaleureusement tous les Hébroïciens à venir acheter des livres.
Pour les vacances.
Qu'on nous donne et que nous revendons après les avoir triés, et parce que c'est aussi un moyen pour nous financer. On rappelle qu'on s'autofinance à 100%. Amnesty Évreux, comme toutes les sections d'Amnesty, ne demande jamais de subvention. Voilà. Notre prochaine émission de radio, c'est quand ?
Le mardi 28 mai.
28 mai ? À quelle heure ?
C'est le mardi
19h.
19h sur l'antenne de Principe Actif. Bah, il nous reste une minute, un peu moins d'une minute. Il y a notre ami Manu qui est arrivé pour le laboratoire. Donc on le salue, on va lui passer l'antenne avec beaucoup de plaisir. Il nous reste une minute. T'as pas une dernière bonne nouvelle, Mina ? Non ?
Une dernière comme ça, bonne nouvelle ?
Oui, au pied levé. Non.
Il fait beau.
Il fait beau.
Non, au pied levé, non.
Il fait beau, mais un peu frais, c'est ça. Bon, bah écoutez,
on vous dit bonsoir.
On vous donne rendez-vous à la radio, le
28 mai.
28 mai. À bientôt.
Au revoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.